Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Je sais que vous êtes toujours au rendez-vous pour cette rencontre avec la presse, bien sûr. Et des personnes arrêtées lors des récentes manifestations des 26 et 27 juin dernier ont été jugées vendredi dernier par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lomé. Sur les 31 jugés, 18 ont été reconnus coupables. Sur les 31 manifestants, bien sûr, jugés, le tribunal a condamné 18 à un an de prison, dont 11 mois avec sursis. Ils ne passeront donc que quelques semaines en détention. Par ailleurs, 12 autres manifestants ont été relâchés au bénéfice du doute. Le tribunal s'est déclaré incompétent à juger un mineur qui sera transféré à une juridiction spécialisée. Le procureur de la République a fait le point hier sur la télévision nationale quant à ce qui concerne des corps retrouvés dans les lagunes. Selon le procureur, une enquête judiciaire est en cours pour élucider la situation. À l'issue alors du verdict, les avocats de la défense ont dénoncé un manque manifeste de preuves tangibles justifiant les charges retenues contre les manifestants condamnés. Nous aborderons bien sûr le sujet dans cette émission Club de la Presse. Nous aborderons également d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays, le Togo. Nous parlerons aussi des sujets liés à l'actualité sur le plan continental, également sur le plan mondial. Nous en parlerons bien sûr dans cette émission Club de la Presse de ce lundi 7 juillet 2025. Bienvenue au Club. Pour l'occasion, nous serons en présence où nous serons avec Nathaniel Olympio. Nathaniel Olympio qui est bien connu alors de tous. Nathaniel Olympio, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
En tout cas, nous sentons l'enthousiasme du lancement de cette émission et c'est avec plaisir que nous allons partager nos idées.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aborderons des sujets liés, bien sûr, à l'actualité. Nous aurons votre analyse alors sur ces sujets liés à l'actualité. Et pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Akouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Osso au micro. Comme toujours, vous nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez ce privilège de nous suivre également partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Lébédé. Club de la Presse, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, et du continent africain aussi du monde entier. Nous tenons à dire un sincère merci à notre confrère David Aboiti qui a su nous remplacer pendant nos deux semaines de congés. Merci à vous, David Aboiti, là où vous vous trouvez, vous nous écoutez actuellement. Merci à vous. Et Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est avec des confrères journalistes en studio avec moi, Jacques Dzakouti. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs auditrices de Canal FM. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ta vie. Ton papa est décédé, Dieu a failli la ressusciter ta moto, donc c'est, tu vois que c'est un complément d'objet direct et non indirect. Donc c'est pour te dire que le décès de ton papa...
Vous avez parlé d'un miracle, je vous assure c'est vraiment un miracle.
Ah, justement, bien sûr, parce que le film de ce que tu as décrit pour retrouver ta moto, c'est vraiment un miracle. Donc c'est pour rendre grâce à Dieu pour cette grâce qu'il a fait dans ta vie en retrouvant ta moto. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à n'importe qui. Je comprends pourquoi tu es en blanc ce matin et je voudrais sincèrement remercier Dieu pour cette résurrection de ta moto que tu as retrouvée. Et j'ose croire que la moto là sera là maintenant définitivement, elle ne va plus se perdre. Donc, merci à Dieu pour cette grâce.
Vous parlez d'une résurrection de ma moto. Je pense même d'ailleurs que c'est une résurrection même de ma personne. Parce que, au-delà de tout, je perdais quand même tous les fils quand j'ai appris quand même que ma moto était totalement, alors, a été volée.
Justement, c'est pas facile.
Non, c'est pas facile. Ça, il faut qu'on se dise la vérité.
Donc, Dieu merci. Profitez de l'occasion une fois encore. Pour remercier les forces de l'ordre de sécurité qui ont permis à ce que cette moto soit retrouvée, pour dire que quand quelqu'un fait bien, il faut le reconnaître. Je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont actuellement sur les hôpitaux, ceux qui sont malades, ceux qui traversent des moments difficiles actuellement. Seul le grand Dieu peut consoler chacun et chacune. Et inviter une fois encore, c'est vrai que Il y a les maires sortants. C'est compliqué aujourd'hui, Pascal. Quand vous allez dans des quartiers, vous voyez les ordures qui sont entassées. Il n'y a pas des gens qui viennent chercher ces ordures. Et ça crée vraiment tout un problème dans les quartiers, un peu partout. Heureusement ou malheureusement, la pluie a un peu cessé. Mais s'il allait continuer encore par pleuvoir dans notre capitale, et les ordures que nous voyons un peu partout au niveau des maisons, ça devait quand même créer un problème. Donc c'est le lieu d'inviter une fois encore, je ne sais pas quels sont ces services-là qui sont chargés de pouvoir ramasser ces ordures, demander une fois encore que si c'est le gouvernement, je ne sais pas qui doit s'occuper, parce que nous sommes en transition, les maires sortants sont en train de battre campagne, je ne sais pas s'ils seront encore en plein exercice, de pouvoir exercer une fois encore le travail à ce niveau. Notre capitale est un peu sale par rapport à ces ordures, Pascal.
D'accord, merci beaucoup Jacques d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai, vous avez touché cette question alors de moto tout de suite. C'est vrai que la situation, c'est tout un miracle, parce que je vous raconte un tout petit peu la manière dont cela s'est passé. J'étais là, c'est vrai, la moto est perdue, ou on a volé la moto, j'allais dire, on a volé la moto le 18 juin, c'est-à-dire le mercredi, au petit matin, bien sûr, et c'est là où après, un monsieur m'a appelé, et c'est un certain David Aprem que je salue au passage. David qui vend au niveau de Nekonakwe, et lui-même il est à Flaou. Il dit qu'il a assisté à une scène au petit matin à l'heure de mercredi et qu'il voulait me raconter peut-être que ça doit être à l'homme à moto. Et là, il me dit qu'il y a un monsieur qui a pris, ou un jeune homme qui a pris une moto et qui voulait traverser Beat 11, nos frontières là, Beat 11. Et il y a un militaire togolais, bien sûr, qui voudrait l'arrêter d'abord parce qu'il n'a pas porté de casque. Et il lui a demandé pourquoi il n'a pas apporté alors de casque, où est son casque. Le monsieur ne voulait pas obtempérer et il est rentré immédiatement au Ghana. Et quand il est rentré, il est passé par la frontière, bien sûr, pour rentrer au Ghana. Finalement, il y a le service de sécurité nationale qui également suivait la frontière. Il y a un agent de ce service qui était là et qui suivait la scène. Et qui a interpellé le jeune homme et qui lui dit, mais il semble qu'on est en train alors de l'interpeller de l'autre côté, mais pourquoi il n'a pas obtempéré? Automatiquement, il voulait quitter également le monsieur. Et quand il voulait quitter le monsieur a sauté sur lui. Et la moto et le monsieur, c'est-à-dire le jeune, se sont tous ensemble alors renversés. Et il se retrouvait par terre. Le gars a fait sortir ses menottes et il a menotté le gars. Et on lui pose la question, où sont les papiers de la moto et également les clés de la moto. Il dit que c'est son grand frère qui l'a envoyé au Togo et pour donner quelque chose à la copine alors du grand frère. On lui dit, mais ton grand frère t'a envoyé et que finalement, on ne t'a pas donné les clés de la moto ni les papiers de la moto. Le monsieur a appelé maintenant celui qu'il prétend être même justement son grand frère. Et on lui demande si c'est lui qui a envoyé justement le jeune homme. Il dit oui. On lui dit c'est avec quelle moto? Il dit c'est avec une moto Haozu. On dit mais ce n'est pas une moto Haozu qui est ici. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, en fait, il a beaucoup de motos dans sa maison et qu'il a demandé à son petit frère de choisir une d'entre ces motos. Et ça, c'est déjà la version, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le monsieur qui lui dit, oui, ils ont saisi la moto, et donc qu'il apporte les papiers, les clés alors de la moto avant que la moto ne soit relâchée. Et par après, c'est un policier ghanéen qui vient et qui demande qu'on libère la moto et aussi le jeune homme. Sous la pression, finalement, le gars, il a libéré le jeune homme, le voleur. Et la moto, il a gardé la moto. 30 minutes après, c'est quelqu'un qui vient avec 120 000 francs togolais et qui demande qu'on libère la moto. Le jeune a refusé. L'agent de service, bien sûr, de sécurité nationale du Ghana, l'a refusé. Et après tout, c'est un groupe de personnes qui vient. Et ce groupe lui demande alors de dire ce que lui prendrait pour libérer la moto. Et il a encore refusé. Donc, le jeune homme qui vend à Nekonakwe suivait la scène. Et lui m'a dit qu'il est un friand de l'Onato. Et il regardait la plaque, il voulait jouer la plaque. Et donc, c'est par après que le monsieur a vu le message, a vu nos messages que nous avons publiés sur les réseaux sociaux. Et il m'a appelé pour me raconter l'histoire. Et on a commencé les démarches. Et finalement, je suis parti au Ghana au niveau du commissariat de Tokor pour recevoir ma moto. Mais on dirait justement que c'est tout un miracle, bien sûr. Didier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Canal FM. Bonjour aux aînés en studio. Mais c'est vraiment un miracle. Nous étions fait cambrioler un temps ici. Et cette moto là on ne plus jamais retrouver la trace, soit elle se retrouvait au Ghana ou au Bénin. Mais si on cambriole ta maison comme ça, on prend une moto là et que tu arrives à le retrouver dans les circonstances pareilles, c'est un vrai miracle. Et bon, Jacques disait que ton papa a veillé à ce que ta moto soit ressuscitée. Je dirais que
Nous sommes en Afrique, et ça aussi, d'une manière ou d'une autre, on pourra dire que c'est aussi du vrai.
Je dirais simplement que le bon Dieu n'a pas voulu que l'affliction vienne deux fois sur toi, et il a veillé à ce que, justement, cette nouvelle affliction, que des forces auraient tenté de t'apporter après le décès de ton papa, ne soit pas, et a veillé justement à ce que les circonstances-là puissent justement permettre de bloquer la moto à la frontière pour que tu puisses la retrouver. Dieu merci et beaucoup de courage, parce que perdre un engin dans des circonstances, je sais de quoi il s'agit, j'en ai été victime. Tu dors, tu te réveilles, il n'y a plus ta moto, et c'est pratiquement le ciel qui tombe dessus. Mais heureusement que tu l'as retrouvé, Dieu merci, et merci à tous ceux qui y ont contribué.
Tout à fait.
Notamment cet agent de sécurité ghanéen que Dieu a utilisé, justement parce qu'il aurait pu, par les temps compliqués que nous traversons, avec 120 000 CFA, c'est beaucoup de CIDI, il aurait pu
céder. C'est 30 millions de francs CIDI.
Naturellement. Et donc, il aurait pu céder à la tentation de l'argent, mais il n'a pas cédé. Dieu le bénisse pour cela. Et Dieu bénisse justement ce jeune homme David dont tu as parlé et qui a été assez prompte à t'en parler pour que tu entames les démarches. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué. Dieu merci encore une fois.
Merci vraiment à Dieu et merci à tous ceux qui ont contribué. Disais, tu l'as dit si bien fait. Gosson Ketomania, bonjour.
Bonjour Pascal.
Mais Gosson, c'est vrai que il y a quelque chose qui m'a marqué dans la démarche, hein, c'est que, allez, quand on parle alors de la porosité de nos frontières, c'est une réalité parce que quand nous partons pour aller recevoir la moto et tout, vous voyez quand même que la frontière est toute ouverte à toute personne. Et quand vous prenez la grande frontière, même ici, il suffit simplement que vous posez vos pieds à terre et vous poussez votre moto et c'est fini, vous irez au Ghana. Et pour les petites frontières, là, vous n'avez même pas besoin de poser les pieds à terre. Vous voulez, il suffit simplement alors de vous balancer sur la moto et vous allez. Et c'est comme ça que ça se passe. Et des fois même, il y a certains qui sont là et qui reçoivent des 100 francs, des 200, des 500 et tout.
D'abord, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Bonjour à mes co-débatteurs. Pour revenir à l'histoire de la moto, je peux dire que j'en sais quelque chose. Parce que toi, d'abord, on te l'a volé sans avoir porté atteinte à ton intégrité physique. Et Dieu merci, tu l'as encore retrouvé. Ce ne fut pas mon cas un jour du 5 janvier 2013. Et à ce jour, je continue de porter les stigmates de cette agression. Donc, bref, pour dire que c'était pas l'heure de ta moto. Pour revenir à la porosité des frontières, je veux juste être bref pour dire que, au-delà de. Normalement, toutes frontières, les frontières ne devraient pas être hermétiques. Mais que leur porosité ne peut pas avoir d'impact sur la qualité de service que les préposés aux frontières devraient fournir. Parce que, par cette expérience, je comprends simplement que il y a policiers et policiers, il y a militaires et militaires, il y a gendarmes et gendarmes. Il y en a qui sont corrompus, très corrompus, mais il y en a qui savent se contenter du peu et faire le travail comme il faut. Ta chance c'est que ta moto soit tombée entre les mains de quelqu'un qui ne court pas après l'argent. La preuve en est que un de ses collègues était venu lui demander de libérer la moto, mais il a dit niet. Si ce type de force de l'ordre pouvait courir les rues, ce sont les populations qui s'en porteraient mieux. Malheureusement, il se trouve que dans certains cas, tu te demandes à quoi sert un agent des forces de l'ordre. Merci.
Merci, Nathalie Olympio. C'est vrai, nous sommes en train de parler alors de ce sujet qui est d'ordre social. Parce que au-delà de tout, ça devient un fléau pour ce qui concerne surtout le vol de moto. Parce que j'ai discuté avec certains agents de sécurité également au-delà de la frontière, c'est-à-dire au niveau du Ghana. Il semble que pratiquement dans une semaine, 15 à 20 motos passent à travers ces frontières pour venir au Togo. Alors là, ça veut dire que nos engins ne sont pas en sécurité.
Ce sont les citoyens qui ne sont surtout pas en sécurité. Parce que ces vols sont des vols de besoins quotidiens. Quand on s'en prend à la moto d'un citoyen, à une moto qui est son outil de travail, qui est son moins de locomotion, et que cette pratique est récurrente dans notre espace, ça veut dire qu'il y a un vrai problème de société. La pauvreté incite à cela. Et les gens dépourvus de moyens de subsistance, eh bien, ils cherchent tous les moyens possibles, illégaux aussi, et ils posent ces actes de désespérés. Je pense que c'est avant tout un problème social qui doit être réglé pour que les gens ne se sentent pas obligés de poser des actes illégaux de cette nature-là et qui ne changent pas leur vie. Hein. Et ils prennent une moto, ils vont brader, et ils vont dépenser l'argent en peu de temps et ils recommencent encore. Donc, c'est en fait la gouvernance qui va permettre de mettre un terme à ces pratiques. Quand les gens vont commencer à avoir un métier qui leur permette de vivre à peu près décemment, mais on ne va pas se permettre d'aller poser des actes délictueux, des actes, des crimes de cette nature. Donc pour moi, c'est avant tout un problème de gouvernance. Ensuite, je pense que là, je vais aborder une autre question, c'est la question des frontières. Je ne suis pas persuadé que les frontières doivent être plus hermétiques. Bien au contraire, moi je pense que la libre circulation des personnes et des biens doit être une réalité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans nos pays. Et donc, il ne faut pas qu'on cherche à régler un problème d'insécurité par le cloisonnement de nos États qui va entraver le commerce, qui va entraver la circulation des biens et des personnes et donc qui va nous faire régresser. Il faut adresser le vrai problème, c'est donner des emplois aux jeunes. C'est ça qui pollue tout notre espace public aujourd'hui. Tout ce dont nous allons peut-être parler autour de cette table, les manifestations, tout cela n'a qu'une seule et même racine. La mauvaise gouvernance qui ne donne pas de l'emploi. Et toutes les dérives peuvent découler de là.
Mais Jacques, c'est vrai que dans mes démarches aussi, j'ai compris quand même qu'il y a tout un réseau aujourd'hui, un réseau bien organisé, hein, un réseau bien organisé pour ce qui concerne surtout le vol de moto. Il y a des gens qui se trouvent ici au Togo et certains qui se trouvent au-delà de nos frontières, c'est-à-dire au niveau du Ghana. Et quand on vole ici, rapidement, on envoie au Ghana.
Vous savez, pour ceux qui ont quand même vécu certains quartiers de Lomé, seront mieux placés pour vous dire ce qui se passe au niveau de ces frontières. Moi, j'ai fait Côte d'Ivoire Copé, je sais ce que c'est. Quand on parle de la frontière, quand on parle du vol, je sais bien comment le trafic, ce qui se passe tout au long de cette frontière. Parce que quand on voulait aller, par exemple, au Ghana, on passait par le Bitnine pour pouvoir entrer au Ghana sans problème. Donc c'est pour vous dire que quelque part, il faut reconnaître que c'est vrai, c'est l'insécurité finalement qui a créé ce problème entre le Togo et le Ghana. Sinon avant, Pascal, je vous dis, il n'y avait pas du tout de problème pour aller au Ghana, il n'y a pas du tout de problème pour venir au Togo. Je vous dis, la frontière, vous pouvez aller nombre de fois que vous voulez. Parce que nous, on avait la chance d'aller acheter les petits poissons au niveau du Ghana pendant les vacances pour venir vendre ici au Togo. Vice-versa, vous prenez des choses à Lomé pour aller vendre au niveau d'Aplaou, vous prenez des choses au niveau d'Aplaou pour venir revendre au
Togo. En quelque sorte, il n'y avait pas de frontières.
Pas du tout de problème. Mais c'est parce que, bon, entre-temps, avec l'insécurité qui a fait que, finalement, il y a ces problèmes, comme vous l'avez dit, il y a des réseaux qui sont organisés. Des réseaux qui sont organisés entre le Togo et le Ghana. Et vous allez voir même que dans un passé récent, je crois que c'était le mois de juin, où le Togo avait livré un grand bandit au niveau du Ghana, qui opérait au Ghana, qui est venu finalement se réfugier ici au Togo. Donc c'est pour vous dire que des gens commettent des choses au Ghana, ils viennent se réfugier au Togo, des gens commettent des choses au Togo qui vont également se réfugier au Ghana. Donc c'est-à-dire que c'est vice-versa. C'est le lieu, une fois encore, d'appeler la vigilance d'abord de nous, la population que nous sommes, et la vigilance également aux forces de sécurité de l'ordre qui sont effectivement au niveau de ces frontières. Parce que, il faut reconnaître, Pascal, la tentation est grande. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. La tentation est très grande lorsque vous êtes au niveau de la frontière. Parce que vous voyez tout. Les marchandises qui quittent la Côte d'Ivoire, qui traversent le Togo, qui va vers le Bénin. Les marchandises qui quittent le Nigeria, qui traversent le Bénin, qui traversent le Togo pour aller vers la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que c'est des gros sous. Donc c'est le lieu d'inviter les gens.
Mais au nom de la tentation, on ne va pas sacrifier quand même la sécurité.
Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit la tentation est très grande. Donc c'est le lieu d'inviter, une fois encore, les forces de sécurité et de l'ordre à pouvoir effectivement jouer leur rôle, de ne pas tomber sur le charme effectivement de cette tentation. Parce que vous allez voir certains vous dire que non, que quand on va au niveau de la frontière, un mois ou bien six mois, on a une villa. Vous entendez les gens dire ce genre de choses. Donc c'est pour vous dire que la tentation est effectivement grande. Et vous rappelez que quand M. Forigna Simbe avait pris, je crois que c'était la présidente de la commission de l'UMOA, ou bien de la CDAO, je me rappelle.
De la CDAO.
Il avait fait un tour entre la frontière du Togo et du Ghana.
Tout à fait.
Il a vu effectivement ce qui se passe. Donc c'est pour vous dire que ce trafic-là, Pascal, il faut qu'on se dise la vérité, ce n'est pas du jour au lendemain que les gens vont abandonner certaines pratiques, mais il faut les inviter quand même à le faire. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens commettent des forfaits au Ghana, venir se réfugier au Togo, que les gens commettent des forfaits également au Togo pour aller se réfugier au Ghana, vice-versa. Ça n'a pas de sens. Et vous avez parlé des motos, il faut reconnaître que c'est vraiment un trafic que les gens commettent. Vous voyez, si Dieu ne nous avait pas aidés pour que ce jeune homme-là, Dieu place ce jeune homme-là sur votre route, votre moto-là, on allait le vendre et le dépiécer peut-être au Ghana, changer la plaque qu'il utilise sans que vous ne soyez au courant. Donc, une fois encore, c'est la vigilance devant, d'abord nous, citoyens que nous sommes, vigilance également aux forces de sécurité qui sont au niveau effectivement de cette frontière.
C'est vrai qu'il faut la vigilance à notre niveau, c'est-à-dire nous qui sommes citoyens, mais au-delà de tout, les forces de sécurité et de défense, bien sûr, sont là également pour notre sécurité.
C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'engagent dans les corps où ils s'engagent. Si on s'engage à devenir gendarme, policier ou militaire, c'est justement pour assurer la sécurité des citoyens. Et à ce titre-là, il revient aux agents de se comporter de manière à procurer plutôt de la confiance aux citoyens lorsqu'on les rencontre, que ce soit à la frontière, que ce soit un peu partout, que ce soit sur le chemin, plutôt que avoir de la méfiance envers eux. Et par exemple, dans ton cas, j'en tire, tout comme Godson le disait, de deux enseignements. C'est-à-dire qu'il y a un agent qui se disait qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans cette affaire et qu'il faut veiller à voir clair dedans. Peut-être qu'un citoyen a été victime de vol parce que passer avec une moto sans clé, déjà c'est suspect. Comment il a pu démarrer la moto? Et puis sans papier, c'est encore grave. Et donc, il se disait il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Il faut bien regarder. Au même moment, il y a un autre agent qui vient, qui a demandé même qu'on lui donne de l'argent, on donne de l'argent à son collègue pour que son collègue libère et la moto et le voleur.
Donc, il avait demandé qu'on libère et le voleur et la moto.
Justement.
Et aux dernières nouvelles, il a été interpellé même au Ghana.
Justement, ça veut dire que soit il est dans le réseau lui-même, ou soit il a lui-même, à chaque fois, peut-être qu'il a eu la chance d'être positionné au niveau de la frontière, reçu de tels sous et de telles propositions pour libérer et des voleurs et des objets volés. Et donc ça veut dire que dans le corps, c'est pour ça que Gosson disait que il y a agent et agent. Il y a policier et policier, il y a gendarme et gendarme, il y a militaire et militaire. Ceux qui y vont avec le cœur correct, qui font leur travail en toute âme et conscience, mais d'autres qui y vont justement pour gagner de l'argent pour, illégalement, même au-delà de leur salaire. Comme Jacques le disait, on entend beaucoup dire quand on les affecte au niveau des frontières, plutôt que de dire qu'il y a des risques au niveau de la frontière, des gens disent que bon, le chef les a récompensés en les affectant à la frontière. Qu'est-ce qu'il y a de récompense quand on donne une affectation à un agent pour aller travailler à la frontière où il était censé être exposé à des risques d'insécurité, des risques d'agression du pays et bien d'autres choses? Donc, c'est clair que dans cette affaire-là, il faut justement que nos agents continuent, puisqu'ils demandent le professionnalisme à tout le monde, que nos agents également soient professionnels. Que quand je rencontre un policier togolais dans la circulation, plutôt que d'avoir peur de lui ou d'être méfiant vis-à-vis de lui, que le simple fait de le voir m'inspire plutôt confiance de ce qu'il est là pour ma sécurité, pour me protéger et non pour le contraire.
Oui, mais Gosson, de toute manière, tel que Didier le dit, quand on voit un agent de sécurité, une force de l'ordre et de sécurité, normalement, ça doit nous rassurer.
Tu as dit normalement. Et au-delà de leur caractère à chaque agent, il y a aussi le comportement que les civils adoptent quand ils sont en face d'un agent. Moi, j'ai l'habitude de me dire que je ne sais pas pourquoi un agent va se comporter envers moi, parce que je connais le métier qu'il fait. Donc, j'ai une manière de les aborder toujours, parce que je te dis, j'ai une manière d'aborder et le militaire, et le gendarme, et le policier. Ce qui fait que, même s'il est en courroux, il comprend que ce monsieur, au-delà de son âge ou bien de ce avec quoi il roule, il a un certain respect pour ma personne. Je veux quitter là pour parler de cette affaire de réseau entre réseau de vol de moto. Tu sais, si le Ghana et le Togo ne sont pas au sein de l'UMOA, ils sont au moins dans la CEDEAO. Et il existe quelque chose qu'on appelle Interpol. Je me rappelle les mois et années où des quartiers se réveillaient avec des militaires qui les entouraient et on procédait à des fouilles. Ça s'est passé au Togo ici. Je ne sais pas si on l'a arrêté, mais si tant qu'il y a des réseaux de vols de motos et quand les gouvernants veulent y mettre un terme, que les deux pays coordonnent des opérations coup de poing pour que ben, après avoir recueilli les informations, on fait une descente soit dans un village, dans une zone, qu'on boucle et là on ramasse ce qu'il y a à ramasser. Après on peut passer les communiqués pour que les ayants droit viennent vérifier si ils ont perdu des outils. Parce que le fait est là. Mais ne rien dire, c'est comme l'encourager. Et pour terminer, parlant d'affectation aux frontières, j'ose dire ceci, proposer ceci plutôt. Que désormais, que tout policier ou gendarme ou militaire qui sollicite une affectation aux frontières, que ça lui soit refusé. Parce que il sait pourquoi c'est aux frontières qu'il demande à être affecté et non ailleurs. Ça veut dire que là-bas, il y a quelque chose, comme Didier vient de le dire. Mais au-delà de ça, c'est l'occasion pour que ceux qui dirigent le pays fassent en sorte que les frontières ne soient plus des lieux où on va pour s'enrichir quand on est agent de force de l'ordre. Mais où on doit aller pour servir son pays.
D'accord. On quitte le sujet. On va s'intéresser à ce sujet qui nous réunit d'ailleurs hein, pour cette émission. Nathaniel Olympio, rebonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes le premier porte-parole du Front Touspa à ma constitution. Bien sûr, vous êtes aussi le président du parti des Togolais. Et c'est vrai, on a vu quand même la mobilisation hein, déjà pour ce qui concerne les manifestations dans la rue ou dans les rues de Lomé. C'était le 6 juin, mais après, nous avons compris que les 26, 27, 28 juin également, il y a une autre manifestation. Et les conséquences sont là aujourd'hui. Nous parlons même d'ailleurs aussi de ce procès qui a été fait. Déjà, quand on prend ces manifestations avec la manière dont ça se déroule, est-ce que vous comprenez quand même les manifestants? Vous comprenez les Togolais dans leur manière, enfin dans leur revendication?
Et ceux qui ont initié ces manifestations projettent d'autres le 16 et le 17 juillet. Je pense que l'ensemble des Togolais, nous avons tous compris que il y a un malaise dans le pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, depuis plusieurs années, le régime de Faure Gnassingbé a mis en place des lois liberticides pour empêcher l'expression publique. Les citoyens togolais ne peuvent plus dire ce qu'ils ressentent. Ils ne peuvent plus exprimer leurs opinions. Ils ne peuvent plus manifester. La dernière fois que l'opposition a eu l'occasion de manifester au Togo, c'était le 26 janvier 2019. C'est la date de la dernière manifestation organisée par l'opposition togolaise. Et c'était au temps de la C14. Depuis lors, vous-même vous voyez, plus jamais. Alors, on a fermé l'espace civique. Alors, quand c'est comme ça, la jeunesse qui croule sous le poids de la misère, la jeunesse qui voit sa perspective, son avenir complètement bouché, eh bien, cette jeunesse a décidé de prendre son destin en main, tout simplement. Et donc, il se passe des lois, il se passe de ce que le pouvoir dit, il se passe de toutes les contraintes qu'on a mises devant les citoyens. Et ils ont décidé de s'exprimer à leur manière. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, derrière, c'est la répression qui est la seule réponse que le régime donne. On a compté 7 personnes tuées. 7. En moins de 3 jours. C'est inacceptable. On a vu des milices à côté des forces de l'ordre opérer, torturés, pourchassés, frappés jusque dans les maisons des citoyens. Mais on ne fait pas le maintien de l'ordre de cette façon.
Et moi, j'estime que la première responsabilité revient à M. Fonia Singbe. Pourquoi? D'abord, je rappelle que le 20 octobre 2017, la date, elle est précise, il a accordé une interview à Jeune Afrique. Et dans son interview, il a justifié la présence des milices aux côtés des forces régulières. Il l'a justifié. Il les a même qualifiés de forces, de groupes d'autodéfense. Et ça, j'estime que c'est extrêmement grave. Pourquoi c'est grave? Parce que finalement, il dit que les Togolais ont le droit de s'organiser en groupe d'autodéfense. Et donc, quand les groupes d'autodéfense se retrouvent les uns en face des autres, qu'est-ce que ça donne? C'est la guerre civile. Monsieur Fonia Singbe joue avec le feu. Et aujourd'hui, en 2025, il récidive, puisque nous voyons encore des milices opérer vraiment en dehors du cadre de la loi. Je pense que le Togo est sur une pente dangereuse.
D'accord. Jacques, c'est vrai que le gouvernement, dans son communiqué, dénonce plutôt le caractère illégal alors de ces manifestations. Est-ce que vous comprenez le gouvernement en le disant ici?
Non, vous savez, Pascal, je voudrais rebondir par rapport à ce que disait Monsieur Nathaniel Olympio. Vous savez, c'est vrai qu'actuellement, il y a une plaie qui gangrène notre société, c'est-à-dire les Togolais que nous sommes. Mais ce que je voulais demander à tout un chacun, d'abord au président Nathaniel Olympio, c'est vrai que nous tous nous connaissons le mal. Nous savons que les Togolais ont des plaies. Mais il faudrait aujourd'hui que chacun d'entre nous, nous soyons un acteur. C'est-à-dire que ceux qui peuvent amener par exemple l'alcool, le microcom, l'espradra pour pouvoir guérir la plaie, c'est ce que nous devons faire. Mais il faudrait qu'on s'abstienne une fois encore de ce qui se passe, de pouvoir encore essayer de mettre un couteau dans cette plaie. En remuant encore la plaie, ça risque encore de créer plus de problèmes, créer plus encore de difficultés, de compréhension, de la cohésion et du vivre ensemble dont nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu une manifestation. Il y a eu des arrestations, il y a eu également des blessés. Aujourd'hui, certains ont été libérés, d'autres sont toujours en prison. Et quand on parle, par exemple, des groupes d'autodéfense, Pascal, ça fait mal. Nous savons ce que c'est. Nous avons vu, effectivement, ce qui s'est passé. Il faut combattre ce genre de choses. Il ne faut pas du tout accepter que ce genre de choses se manifestent dans notre pays. Parce que, un, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a également les militaires qui sont là pour nous aider à assurer notre sécurité. Il n'est pas du tout sain que des gens qu'on n'a pas formés, qui n'ont pas le titre de gendarme, qui n'ont pas le titre de policier, qui n'ont pas le titre de militaire, puissent effectivement dire qu'ils vont assurer, par exemple, notre sécurité. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand M. Nathaniel Olympio disait tout à l'heure, par rapport à l'interview que M. Fonia Singbe aurait accordé quand il disait que c'est comme si il avalise, c'est-à-dire il donne son aval au groupe d'autodéfense, c'est là que je disais que la plaie est encore béante par rapport à cette situation. Essayons, en tant que Togolais que nous sommes, si nous pouvons combattre, si nous pouvons tout faire pour bannir ce genre de choses, il faut qu'on le fasse. Mais recenser encore le passé dans ce qui fait mal, je crois que ça risque encore de réveiller des démons qui sont là, qu'on n'a pas encore coupé la tête. Parce que ces démons-là, il faut qu'on essaie de couper la tête de ces démons, les enterrer définitivement, au lieu de se mettre encore à recenser, à ressasser, une fois encore, ces plaies-là qui font mal. Une fois encore, moi ce que je voulais dire, comme tu l'as dit, nous sommes tous des Togolais. Et tout le temps dans ce studio, avec Godson et Didier, on le dit. Nous sommes capables dans ce Togo-là, dans ce pays, de relever le défi. Il faudrait que chacun d'entre nous, nous puissions apporter notre pierre à la construction de ce pays, nous allons avancer. Il n'y a rien dans ce pays-là que quelqu'un puisse dire que nous ne pouvons pas faire pour arranger la situation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un homme si fort, il n'y a pas un homme si faible dans ce pays-là pour dire que ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, on ne peut pas l'arranger. Ça peut s'arranger. Si aujourd'hui, les gens comme les messieurs Nathanaël Olympio, qui ont également l'aura au niveau effectivement de la prise de parole, où les gens les écoutent. Quand on prend par exemple les autres chefs de partis politiques qui ont l'aura, qui parlent, les gens les écoutent. On a les religieux qui ont l'aura, les gens ils parlent, les gens les écoutent. Mais pourquoi ne pas mettre la conjugaison de ce verbe-là, de se mettre ensemble pour qu'on puisse effectivement trouver des solutions au lieu de revenir encore sur des choses qui risque de polariser encore.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. C'est vrai que le sujet nous intéresse au point de presse et nous voudrons justement en parler. C'est pour cela que nous avons invité.
Bien sûr.
Bien sûr. Didier, c'est vrai, quand on prend ces manifestations, je le disais, je posais la question à Jacques tout de suite, que c'est vrai, dans son communiqué, le gouvernement parle alors du caractère illégal alors de ces manifestations. Est-ce que vous comprenez le gouvernement dans cette appréciation de la chose?
Oui, on peut sembler comprendre le gouvernement. Le caractère illégal dont on parle, c'est qu'il n'y a pas eu de demande de manifestation. C'est ce que les autorités ont dit, qu'il n'y a pas eu une demande formelle pour l'organisation, une demande ou une information. Si je vais être correct avec la loi, c'est une information formelle pour une manifestation, parce que nous sommes dans un régime d'information, dit-on, mais qui se mute très rapidement à un régime d'autorisation, selon les termes utilisés les uns les autres, parce que les autorités même disent qu'il n'y a pas eu de demande de manifestation. Et je crois que on doit tous aller encore à l'école de la loi pour apprendre les termes à utiliser. Et donc, à ce titre-là, quand les autorités parlent de l'illégalité des manifestations, je crois qu'ils se basent justement sur la loi sur les manifestations et les réunions publiques. Et je crois que c'est l'argument qu'ils ont d'ailleurs utilisé devant un certain nombre de diplomates et tout. Mais qu'est-ce qu'on dit? Et moi, je fais juste des réflexions en direct comme ça. Qu'est-ce qu'on dit quand demain, par exemple, je suis pas content des actions du gouvernement et que je me mets seul devant chez moi, devant la rue de chez moi, et que je suis en train de dire je suis pas d'accord pour ci et ça, et que Gosson, qui est mon voisin, lui aussi, il sort de chez lui, il se met à côté et tout ça, et qu'est-ce qu'on dit? Je crois que dans le test, il est dit quelque part des manifestations spontanées. Il est également dit dans des termes de ce test que il y a eu des exclusions, en fait, des choses qu'on ne considère pas comme étant des manifestations. Donc, ceux qui sont sortis la dernière fois et qui sont allés dans les rues, ma foi, je ne connais pas encore d'organisation pour ces gens-là, mais je crois que les juristes doivent encore nous aider à ce que des manifestations de ce type, on sache les qualifier. Est-ce que c'est des manifestations spontanées? C'est des manifestations citoyennes ou c'est des manifestations politiques? Parce que la loi dont on parle, la loi sur laquelle on s'appuie aujourd'hui pour déclarer ces manifestations illégales, c'est la loi sur les réunions et des manifestations politiques. Voilà. Qu'en est-il des manifestations citoyennes, des manifestations sociales et tout ça, et des manifestations spontanées et tout ça? Je crois que les juristes du Togo vont nous aider justement aujourd'hui à voir dans des cas pareils quel qualificatif il faut-il donner pour que ça ne biaise pas rapidement les appréciations et les analyses qu'on pourrait faire de tout ce que les gens disent. Donc si le gouvernement, au vu de la loi sur les manifestations publiques, dit que les manifestations qu'il y a eu sont des manifestations illégales, ça veut dire que le gouvernement, lui, voit ces manifestations de la perspective politicienne. Et donc, est-ce que ça a été des politiciens qui manifestaient? Et comme je dis, moi, j'ai pas vu de parti politique, mais je crois que pour M. Nathanaël Olympio parlait d'espace civique et tout ça, pour sécuriser l'espace civique, je crois encore qu'il y a des efforts à faire de part et d'autre pour que justement les termes qu'on utilise puissent justement nous permettre de qualifier les choses et tout le monde se mettra d'accord. Quand on dira demain manifestation politique, on sait de quoi on parle. Quand on dira manifestation spontanée ou manifestation des citoyens et tout ça, on saura de quoi on parle. Donc, si c'est ça, si se base sur la loi, sur les manifestations civiques, oui, il n'y a pas eu de déclaration et tout ça. Mais est-ce que ceux qui manifestaient étaient d'un parti politique, avaient une structure organisée qui pourrait adresser une demande de manifestation au gouvernement? Je crois que c'est peut-être cette appréciation qui a manqué aux autorités, de se dire, nous sommes en face des citoyens qui sont sortis de chez eux pour investir la rue. Est-ce que ces citoyens-là vont s'organiser un jour en association, je ne sais pas, en parti politique, pour nous adresser une demande de manifestation? Et je crois que la gestion de cette situation aurait pu être tout autre si l'appréciation avait été d'une autre perspective. Mais ils ont juste rapidement essayé de voir les choses d'un point de vue rapidement politique. Et donc, la réponse a été, à ma foi, également politique par rapport à tout ce que nous avons vu. Vous parliez des groupes d'autodéfense. Oui, et j'ai dit la semaine dernière sur les radios que même s'il y a de l'illégalité en face, je crois qu'en tant que parents, nous ne devons pas essayer également de brandir, enfin de répondre à l'illégalité par l'illégalité. Parce que quand on parle des gens organisés, des individus organisés, de groupes d'autodéfense et tout ça, pour aller, soit dit, mater des gens qui manifestaient illégalement, ça veut dire qu'on répondait à l'illégalité avec de l'illégalité. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune loi au Togo qui autorise des gens à se constituer en groupe d'autodéfense pour aller taper sur d'autres qui manifestaient. Et donc, ma foi, c'est de l'illégalité qui répondait à l'illégalité. Et ça, les autorités doivent rapidement condamner cette affaire-là pour que leur illégalité soit justifiée.
Merci beaucoup, Didier. Oui, Gosson, c'est vrai que quand on prend cette question alors de groupe d'autodéfense où qu'il y a des noms quand même qui sont donnés à ces gens-là, jusqu'à présent, quand même, dans les communiqués et tout, nous n'avons quand même vu qu'on a dénoncé même cela. Mais est-ce que ce n'est pas un problème en soi?
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au risque de m'opposer du côté idée à Jacques, si à la date de ce 20 octobre 2017, le président de la République du moment, dont je me prévaut être le conseiller virtuel, n'avait pas justifié la présence de ces groupes et avait pris les mesures idoines qui s'imposaient, je ne suis pas sûr qu'on allait revoir la même situation la dernière fois. Didier parlait de répondre de l'illégalité par l'illégalité. Je considère qu'il a été trop léger. C'est une réponse criminelle à de l'illégalité. Parce que les jeunes qui manifestaient spontanément, soit dit en passant, par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport à la prise d'otages en Israël, les parents des otages, quand ils en ont ras-le-bol et ils veulent donner de la voix, ils ne se sont pas constitués en parti politique pour demander de l'autorisation ou pour informer qui que ce soit. Spontanément, ils se lèvent et pour dire leur ras-le-bol. Quand on soupçonne Netanyahou d'être mêlé à de la corruption et que des Israéliens veulent en parler, ils le disent même si le gouvernement n'est pas d'accord. Donc quand on revient ici, au moins, on parlerait d'illégalité si, lors de ces manifestations, on a pu nous montrer des casses, ne serait-ce que des feux tricolores, des jeunes. Parce que Pascal, disons-nous la vérité, moi, Gosson Kitomanyan, qui suis au micro ce matin-là, j'ai faim. Je te dis bien, j'ai faim. Qu'en serait-il pour les autres jeunes qui sont dans le pays? Si on ne peut pas exprimer son mal-être, mais là, c'est très grave. Donc, disons-le, il faut que cette affaire de l'illégalité dans la manifestation, qu'on la revoie. Parce que, justement, c'était les 26, 27 et 28 juin. Mais on a tout fait de juger ces jeunes-là. Quid de tout cela qu'on a arrêté depuis des mois, des années, qui croupissent et dont on ne connaît pas encore le sort? Ne faisons pas du deux pierres ne faut pas faire de poids de mesure.
Merci. Nathalie Olympio, c'est vrai que les jeunes que nous avons vus dans la rue, puisque j'ai fait un tour dans la rue les 26, 27 et 28, et les revendications sont là, mais au-delà même d'ailleurs de ces revendications, c'est que, tel que Gosson l'a dit maintenant, c'est que le Togolais a faim, ou des gens ont faim. Mais est-ce que vous avez l'impression quand même qu'on est en train d'écouter le Togolais?
Mais non, justement, on n'écoute pas la jeunesse togolaise. Si on écoutait la jeunesse togolaise, jamais la réponse à ce cri de détresse de la jeunesse n'aurait pas eu la réponse de la répression. C'est parce que on ne veut pas écouter les jeunes. On ne veut pas. Parce que on sait que ce que les jeunes disent, c'est la vérité. Et on sait que une fois que les jeunes commencent à le dire, tous les jeunes vont dire la même chose. Donc, il faut étouffer. C'est pour ça qu'on a exercé une répression traumatisante, une violence inouïe. Il faut tout étouffer dans l'œuf pour que ça ne prenne pas toute la jeunesse. Voyez-vous, aujourd'hui, on nous parle de l'illégalité. Mais ce que moi, je voudrais rappeler à tout le monde, c'est quoi? C'est que lorsque les Togolais se sont battus dans les années 90, on a réussi à trouver un accord à travers une loi, ce qu'on a appelé la loi Bojona, qui permet quand même aux citoyens d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leurs opinions, d'exprimer leur détresse dans le cadre d'une loi acceptée par tout le monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, le pouvoir a décidé de casser cette loi-là et de mettre sa propre loi. Alors que, en 2011, la loi qui avait été mise en place a eu la contribution des experts de l'ONU pour nous aider à élaborer ces lois-là. Mais quand ils ont changé la loi en 2019 sur les manifestations publiques, eh bien, les rapporteurs spéciaux de l'ONU ont écrit en septembre 2019, ils ont écrit à l'État togolais en leur disant que ces lois-là ne respectent pas les conventions internationales auxquelles le Togo a souscrit. Mais vous vous souvenez la réponse de M. Bawara? Ben, ils n'en tiennent pas compte. Et donc, ils ont créé une loi sur mesure pour empêcher les citoyens togolais de s'exprimer. C'est pour ça que depuis le 26 janvier 2019, l'opposition et la société civile ne s'est plus jamais retrouvée dans une manifestation. Ils l'ont interdit. Jusque des conférences de presse que nous tenons dans les locaux d'un parti politique, on vient nous gazer. C'est pour vous montrer à quel point ce régime ne veut pas entendre une voix dissonante. Ils veulent tout étouffer. Et donc, et je vais terminer sur ça, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait que M. Fornia Singbe a enlevé toute légitimité aux associations, aux organisations de la société civile, aux partis politiques, aux yeux de la jeunesse. Et donc la jeunesse elle-même, elle a décidé aujourd'hui de prendre ses responsabilités.
Mais est-ce que là aussi ce n'est pas une faiblesse alors de ces partis politiques et aussi des organisations de la société civile?
Le régime de Fornia Singbe a créé le désordre juridique dans le pays. Parce que à partir du moment où on prend des lois qui sont contre la Constitution, on prend des lois qui vident la Constitution de sa substance, on ne peut plus exercer aucune liberté, ils ont créé le désordre juridique dans le pays. Et c'est d'ailleurs dans le même sens que va cette question de 5e République, remplacement de la Constitution par une autre sans consulter le peuple togolais. Ils ont créé ce désordre-là. Et c'est ce désordre qui se déverse dans nos rues aujourd'hui, où les jeunes disent: on en a ras-le-bol, on en a marre, eh bien, nous, on vient s'exprimer, on vient exprimer notre cri de détresse.
Mais Jacques, c'est vrai que je suivais un jeune sur les réseaux sociaux tout récemment et qui, dans toutes ses émotions, demandait si ce qu'ils sont en train de revendiquer, est-ce qu'ils en demandent trop? J'ai envie quand même de vous poser aussi cette question. Est-ce qu'on a l'impression que ces jeunes demandent trop?
Non, vous savez, on ne peut pas dire que cette jeunesse demande trop. Vous savez, on l'a toujours dit dans ce studio, personnellement, je l'ai toujours répété, que affaiblir une opposition dans ce pays, vous n'aurez plus de passerelle pour pouvoir en discuter. Parce que devant vous, vous n'avez plus un interlocuteur avec qui discuter. Parce que finalement, l'opposition a été mise à la touche. Et finalement, quand vous n'avez pas un interlocuteur crédible avec qui échanger, vous aurez toujours des problèmes. C'est comme la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes, c'est quoi? Les jeunes veulent quoi? L'emploi. Les jeunes, quand ils vont par exemple à l'école, chacun veut, après par exemple sa formation, après ses études, qu'il ait une garantie, qu'il puisse avoir de l'emploi. Parce que les gens veulent fonder également les foyers. Vous ne pouvez pas prendre une femme aujourd'hui, la laisser à la maison, parce que vous-même, vous ne vous suffisez pas. Prendre encore une autre personne, laisser la personne à la maison, ce qui veut dire que vous êtes deux, si vous ne savez pas faire, vous allez faire également des enfants. En faisant les enfants, vous voyez que le poids ne fait que s'augmenter. Donc, et un poids comme ça augmenté, quand on parle de l'Afrique, vous savez, l'Afrique ne s'arrête pas seulement au papa et à la maman. Il y a les tantes, il y a les cousins, il y a les cousines et tout. Vous êtes obligé, vous en tant que, par exemple, jeune, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous quittez, par exemple, vous quittez le village, vous venez à Lomé, c'est qu'on prend Lomé comme un paradis. C'est-à-dire qu'on se dit, étant à Lomé, tu es capable d'envoyer des choses au village. Mais ne le faisant pas, vous voyez également qu'il y a des difficultés. Moi, je crois que aujourd'hui, ce qu'il faut, il faut faire par rapport à cette jeunesse, je l'ai dit, nous avons toujours des passerelles, Pascal. Il y a des passerelles que nous allons toujours exploiter pour pouvoir trouver des solutions à ce qui se passe.
Est-ce qu'on n'a pas exploité justement beaucoup de passerelles?
Non, ce que je voulais dire, oui. Pascal, Nathanaël peut témoigner, je ne sais pas si Godson et Didier, si vous allez aujourd'hui en Europe, vous rencontrez nos compatriotes, vous discutez avec les compatriotes, vous allez comprendre qu'ils ont des problèmes. Les gens, en fait, veulent revenir. Il y en a, Pascal, quand ils sont là-bas, la vie n'est pas rose. Vous allez voir que la plupart de nos compatriotes, c'est quand ils reviennent ici, ils essaient d'investir un peu, qu'ils arrivent à s'en sortir. Donc, c'est pas facile. Rester en Europe, rester à l'étranger, pour pouvoir dire que tu vas te développer, Pascal, c'est difficile. Je donne toujours l'exemple de paix à son âme à M. Agbeme Kodjo. Vous vous rappelez, tout le temps, quand il donnait des interviews sur les médias, qu'est-ce qu'il disait? Il disait toujours que la demeure de son pays le manque. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, quand vous prenez le Togolais, je vous dis, Pascal, aujourd'hui, vous sortez par exemple 500 loin, vous allez manger. Mais allez au Ghana à côté, allez au Bénin, vous ne pouvez pas sortir 500 et manger. Donc, c'est pour vous dire que le Togolais aujourd'hui, lorsque vous lui donnez le peu qu'il veut, on n'aura pas de problème. Donc, je crois que il n'est pas tard, comme je l'ai dit, il n'est pas tard pour mieux faire. Il y a les responsables des partis politiques qui sont là. Je l'ai toujours dit, il y a des religieux qui sont là, il y a la société civile qui est là. Exploitons par exemple ces passerelles-là, essayons de trouver des solutions. Quant à la diaspora, nos frères, nos sœurs qui sont à l'étranger et qui se battent également, on peut trouver des moyens. J'ai vu un chef d'un parti politique, la semaine passée, qui a été reçu par un compatriote. Bon, c'est vrai que ça a fait... du buzz, ça fait
sur la toile.
Voilà, sur la toile. Mais vous savez, c'est des choses il faut ces gens de choc. C'est-à-dire pour guérir effectivement le mal. S'il n'y a pas ces gens de choc, on ne peut pas guérir le mal. Donc je crois que, Pascal, une fois encore, moi je ne pense pas qu'on peut dire que tout est fini, on ne peut rien faire. D'accord. Il y a des choses quand même.
Merci, Jacques. Oui, il disait, mais face à ces différentes revendications des jeunes, on a l'impression qu'il y a un silence total de la part alors de l'autorité. Est-ce que vous comprenez ce silence?
Non, justement, ce silence n'est pas compréhensible. Et je crois que c'est dans ce silence, d'ailleurs, peut être expliqué par ce que disait Jacques tantôt, de ce que le gouvernement, les autorités togolaises ont tout fait pour ne pas avoir un interlocuteur crédible en face. De tout faire sur ces dernières années pour enlever leur légitimité aux organisations politiques et groupes d'oppression. Vous savez, pour tous ceux qui ont fait un peu de Sciences Po et tout ça, que ce soit même chez nous ici, vous savez, quand vous n'avez pas le contrepoids et vous n'avez pas des organisations politiques, des groupes d'oppression en lesquels pouvaient s'identifier un certain nombre de groupes, de jeunes, de couches constituées, à un moment donné, dans le pays, vous chercherez un interlocuteur pour discuter d'un sujet afin de régler des problèmes, vous ne trouverez pas. Et je crois que nous sommes, si nous ne le sommes pas encore, nous sommes en train d'aller dans ces situations. Je dis si nous ne le sommes pas encore, nous risquons d'aller là et ça va être encore plus grave. Et ce qui s'est passé la dernière fois, c'est une alerte justement, de se dire que à un moment donné, et j'ai dit quelque part que si des jeunes au Togo peuvent juste écouter des consignes et des mots d'ordre
sur les réseaux sociaux,
et se déversent dans les rues, mais c'est alors très dangereux. Parce que s'ils ne peuvent pas s'identifier aux partis politiques, aux organisations de la société civile et tout, et juste, on ne sait même pas peut-être qui, bon, on nous a parlé beaucoup d'IA dernièrement, si peut-être l'IA lance des appels et que des gens peuvent sortir sur des réseaux, sortir juste pour avoir écouté des appels d'IA, sur sortir de chez eux et on a vu tout ce qu'on a vu là, ça veut dire que le futur est dangereux pour le pays. Donc à ce moment-là, il va falloir que les autorités, je ne sais pas quelle est l'ambition derrière, mais quelle que soit l'ambition qu'on aurait pu chercher, il faut quand même trouver une place à l'opposition togolaise et aux organisations, aux groupes de pression, de s'exprimer, de continuer par s'exprimer et d'être même, permets-moi le terme, c'est pas bien, mais ce qui vient, ce semblant de contrepoids à la gestion du pays, pour que lorsqu'il va y avoir des situations conflictuelles dans le pays et qu'on aura besoin de s'asseoir pour en discuter et régler, qu'on puisse trouver des interlocuteurs valables. D'accord. Auquel cas, ça va être des situations comme ça bizarres et c'est pas bien pour le pays.
D'accord. Gosson, c'est vrai que votre journal Liberté titre bien sûr sur le sujet ce matin, nouvelle vague de répression brutale. Amnesty International alerte sur les violences policières, les disparitions et morts suspectes. Et en tout pour tout, vous écrivez aussi à la une du journal, depuis l'entrée dans la 5e République controversée, le Togo est en panne. C'est ça?
Ouais. Au point que si c'était ma moto qui tombe en panne, très rapidement, je trouve un réparateur.
Mais ici, c'est qui vous
remet. Si c'était ma moto, mais là, quand on dit que un pays est en panne, la preuve. Tout à l'heure, le président Nathaniel Olipio parlait de prochaine manif. Et les dates choisies sont telles que je crains. Parce que, comme Didier vient de le dire, c'était à l'appel des réseaux sociaux que moi, personnellement, d'après ce que j'ai vu, la capitale était morte. Maintenant, il y aura... Là, c'est un chef de parti politique qui vient de donner l'information. Quand on va mettre et les partis politiques, et les réseaux sociaux, et je ne sais quoi encore, et les réminiscences des citoyens, tous ensemble, pour lancer un prochain mouvement... Là, je crois que après avoir quitté l'émission, je vais chercher peut-être quelques sacs de Gary pour les jours à venir.
Ah non, ne nous faites pas peur quand même. Mais... oui, d'ailleurs, Lupio, au-delà de tout, est-ce que vous avez aussi l'impression que le pays est en panne avec ce que le titre alors de Liberté, depuis l'entrée alors du pays dans la 5e République?
Cette histoire de 5e République a ouvert la voie du chaos. Je parlais du désordre juridique tout à l'heure. Et vous savez, à partir du moment où le régime togolais a décidé de faire taire Amron, parce qu'il a eu le courage de dire des choses que nous, acteurs, leaders d'opinion, nous disions depuis longtemps, mais lui, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui exprime l'émotion du peuple. Il a dit, moi je vais mettre le pied dans le plat et je vais appeler un chat. Et il a fait. Vous avez vu la réponse et la réaction violente du régime? On l'a jeté dans un centre psychiatrique comme s'il était il avait la démence. Comme s'il était un malade mental. Lui-même, il a parlé hier sur France 24. Il a dit qu'on l'a obligé. On lui a fait des injections. C'est-à-dire que ils ont révolté la jeunesse togolaise. Le traitement inhumain et dégradant qu'ils ont fait subir à Amron. Et donc, aujourd'hui, ce sont les agas, ce sont les tel artiste, tel autre artiste, tout ce groupe de blogueurs-là, ce sont eux qui ont pris les choses en main. Et ça met notre pays dans une situation dangereuse. J'insiste, nous sommes sur une pente dangereuse. Moi, je voudrais interpeller M. Fonia Singbe en lui disant ceci. Les Togolais veulent vivre dans une décence. Ils veulent vivre dans la dignité. Ouvrez les portes de l'espoir et permettez que cette jeunesse-là retrouve la joie de vivre. Les Togolais sont ternes. La jeunesse, elle est déprimée. Et donc, elle exprime dans ce que nous sommes en train de voir un appel au secours. Vous ne pouvez pas taper sur quelqu'un qui appelle au secours. Il faut donc que le pouvoir togolais se ressaisisse et redonne un nouvel élan à ce peuple. Sinon, la jeunesse va continuer à demander son départ. Nous demandons son départ. Tout le monde veut la fin de ce régime parce que trop, c'est trop.
Merci, Daniel Olympio. Les Togolais, vos compatriotes, vous écoutent, bien sûr. Et nous allons maintenant leur donner la parole. Je sais qu'ils savent bien que le principe de l'émission, c'est qu'à partir de midi, nous leur donnons la parole. Et c'est là, et nous allons le temps sonner, bien sûr, pour que nous leur donnons la parole sur le 90-86-35-35-91-36-33-75. Ils peuvent s'exprimer aussi sur nos réseaux sociaux et notamment notre WhatsApp 90-45-78-57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90-86-35-35-91-36-63-75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, bon.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, j'appelle.
Votre nom c'est. Votre nom c'est.
Mon nom c'est Komlan.
Komlan, vous nous appelez de Nyekonakwe.
Je salue tout le monde, les journalistes et Nathaniel Olympio. Tout simplement, c'est que moi je voulais dire que moi, seulement je veux un autre président au Togo. Je veux un autre président au Togo. Que le régime actuellement a déjà fait pour lui 60 ans et puis il a violé notre constitution. Non, non et non.
Merci beaucoup, Komlan, pour votre intervention. 90-86-35-31-11-36-63-75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir. Allô?
Allô.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
C'est madame ici.
Pourquoi on doit permettre tant de se faire massacrer dans la rue, fracasser le crâne, toute la vie, pour avoir la tenance et la démocratie? Je ne comprends pas. Et puis, c'est pas vrai, quoi. Est-ce que c'est forcé de gouverner les gens? Qui le gouverne, barabara, c'est-à-dire qui le gouverne, qui le torture, qui le supprime? On te dit c'est bon, là. Et tu as dépassé les 10 ans, 20 ans en mai 2005. Et tu as changé, tu as brûlé notre constitution, tu en as créé un autre et tout, une autre. Et puis on est là, quoi, à débattre et tout. Moi, ce que Jacques dit là-bas pour discuter, je ne suis pas d'accord avec lui. Il essaie de temporiser parce que c'est un prière. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. Est-ce que le mandat du régime est fini depuis? Ils sont là depuis 63. En 68, c'était fini. Ils ont eu un bonus de 50 ans. C'est bon, quoi. Ils ne peuvent plus nous diriger. Ils ne peuvent plus. Ils n'ont pas le savoir. Merci.
Merci, madame Messi, pour votre intervention. Salut le plateau. Moi, je demande que le président du conseil n'a qu'à démissionner. C'est Messin qui nous écrit depuis Tovegan, 90-86-35-35. Allô?
Oui, Drofé, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien chez vous.
Ça va aussi par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est?
Benoît Dago.
Ah, Benoît.
Oui.
Allez-y.
Bon, moi, je vais rebondir sur votre dernier sujet. Et est-ce que le pouvoir pense que si quelque chose arrivait ou bien doit arriver à atteindre leur comment je vais dire ça, non? S'il y a eu des gens qui veulent attaquer ou bien renverser ce régime, est-ce que ils sont sûrs que le peuple va pas les empêcher de les attaquer, de renverser ce pouvoir? Comme on l'a fait je ne sais pas en quelle année, en Turquie, il faudrait que le chef du conseil ou de l'UNI rappelle et appelle militant au gouvernement, au Sénat, de s'asseoir et de discuter, d'avoir une discussion franche avec les autres partis, pour que c'est comme si la 5e République, c'est pour échapper aux élections présidentielles. Et maintenant, ils sont pris par leur propre piège. Personne ne parle, personne. On ne dirige pas un pays comme ça. Parce que la vie est chère. La jeunesse, est-ce que le Togo est prêt pour, le Togo est prêt pour défendre son pays contre les assaillants? Merci et bonne journée.
Merci et bonne journée à vous aussi, Benoît. Bonjour, Canal FM. Monsieur Olympio ne fait que dire ce qui a conduit encore ces milices à leur sale boulot. Il ne remue pas le couteau dans la plaie pour le problème actuellement du Togo. C'est qu'il faut de nouvelles personnes pour diriger ce pays. Certains ministres qui sont plus d'une dizaine d'années de ministère à ministère et rien ne bouge, ça donne du dégoût. C'est Ibrahim qui nous écrit 90-86-37-35. Allô?
Allô, Canal FM.
Bonjour.
Bonjour, Serge. Vous êtes depuis un pays.
Ah, monsieur Ouyao, depuis un pays. Allez-y, monsieur Ouyao.
Merci. Tout le monde est libre de parler ce qu'il veut. Tout le monde est libre. Moi, si je suis libre de dire, Faure n'a qu'à faire encore 20 ans au pouvoir. Faure n'a qu'à faire encore 20 ans au pouvoir. Mais il n'a qu'à faire et il n'a qu'à arranger les conditions de vie de tout un chacun. Parce que déjà ceux qui veulent faire la lutte, déjà eux-mêmes, ils se frappent en avant, ils se grondent en avant. Et ceux-là qui peuvent venir gouverner ce pays-là, on va les suivre. Fort n'a qu'à toujours faire 20 ans au pouvoir. Dieu n'a qu'à lui donner la vie. Fort, fort, toujours avance. Merci beaucoup et bonne émission à vous.
Merci beaucoup, monsieur Yao, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Oui, allô.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Mauto. Oui, Monsieur Mauto, allez-y.
Salut le plateau.
Oui, salut.
Vous savez, moi je ne partage pas l'avis de Monsieur Jacques. Je ne vais pas mettre les couteaux dans les plaies là. C'est que on ne peut pas oublier le passé. Parce que la chose se répète de jour en jour. Nous ne sommes pas en sécurité dans le pays. Lorsque le président de la République même reconnaît que ce sont les groupes de taux de France. Donc moi je demande à vous la journaliste, vous pouvez le demander de savoir. D'où se situe le cas des miliciens et de quel corps il s'agit-il? On veut en savoir quoi. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui bloque ce pays. C'est le président Faure. Il fabrique des lois bidons, des institutions inutiles pour bloquer le pays. Donc rien ne va dans le pays quoi. Allez dans le marché quoi. C'est-à-dire que si vous prenez à la fin du mois, vous ne pouvez pas en savoir. Mais si vous êtes patriote comme nous, ça choque dans le pays quoi. Même si dans l'émission.
Merci, M. Mauto, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Bonjour.
Bonjour, Basile. J'espère que vous allez bien.
Oui, tout heureusement.
D'accord. Allez-y.
Eh bien, c'est que d'autres ont... J'ai déjà d'autres qui sont déjà intervenus. Et le PCM, il a montré toutes ses limites. Toutes ces limites, je veux dire. Parce que ce que moi je reconnais en lui, c'est d'être content quand les Togolais souffrent. Ça, on ne peut pas être à la tête d'un pays, être fier quand sa population souffre. Imaginez la constitution qu'il est en train de bouter dehors là, avait dit que quand quelqu'un est arrivé à finir fonctionnaire, il a fini. Donc je sais ce qu'il veut dire. Il lui faut un an. Ces ministres lui ont dit qu'il n'y a pas l'argent pour payer ces gens. Mais eux, les ministres qui sont déjà partis à la retraite, allez au ministère des Finances. Eux, ils ont pris ça. Pourtant, eux, ils se disent que si c'est pour les pauvres, il n'y en a pas. Et vous suivez. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est loin d'un exemple seulement. Pourquoi est-ce que dans le pays, tout est cher, alors que vous êtes conscient que ce que vous payez, à la population, ça, ça ne peut pas arriver à payer, à acheter les choses que vous vendez. Mais, vous, c'est que nous sommes là. Et pourquoi d'autres viennent, vous faites deux mandats, vous passez. Quelqu'un aussi va venir, va faire, on va quoi. Si c'est de la même manière, on va l'enlever. Vous ne voulez pas.
D'accord, merci, merci beaucoup, Basile. Vous avez été largement compris. Bonjour Pascal et tout le plateau. Une cinquième république pour s'éterniser au pouvoir. Et l'armée cautionne cela, c'est dommage. Mon pays souffre. Merci, c'est Didier de Vacocito, 90 86 35 35. Allô? Oui, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour.
Oui, Didier, bonjour.
Non, c'est pas Didier.
Ah, c'est Patrick.
Non, non, c'est Monsieur Abalo.
Ah, décidément. D'accord, Monsieur Abalo, allez-y.
Je vais passer au sujet aujourd'hui.
D'accord.
Et ça veut dire que vous avez fait mal le choix. Donc, moi, bon, comment la question là, j'aimerais demander à Monsieur Nathalie Venture. Il est leader politique. Aujourd'hui, il cite des noms des blogueurs là, ceux qui projettent des manifestations là. Il cite leurs noms. Est-ce que là, ce que lui-même dit là, est-ce que c'est sérieux de que des individus, moi je les appelle des individus, parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres de nous ici. Et ils projettent des manifestations que les jeunes, excusez-moi le mot, les jeunes les suivent bêtement. Et qu'on, ça dit, les gens se blessent. Est-ce que lui, il trouve ça normal que des gens comme ça projettent des manifestations? Lui, est-ce qu'il est, au Togo, bien, il est à l'extérieur. Il est bien sûr au Togo et il est à la peine, il parle. Lui, on peut l'écouter, on peut discuter avec lui. Ça veut dire qu'on ne blague pas avec une république, quoi. C'est sérieux. Les gens demandent des trucs que tant ça ne va pas, mais on comprend. Mais on ne peut pas suivre les milieux des gens qui sont à des milliers de kilomètres. On dit qu'à supposer qu'aujourd'hui, on est ce temps, on dit que bon, ce que dit que le président fait n'a qu'à quitter là. Aujourd'hui, le président fait qui parmi eux, qui viendra être président ici. Non, c'est sérieux. On ne peut pas blaguer avec une république comme ça.
D'accord. Merci, merci beaucoup, Monsieur Abalo. Bonjour, Pascal. Pour notre frontière, c'est du passoir au moins. Si nos forces de l'ordre vérifient les papiers avant le passage des engins, ils ne le font pas. Conséquence, les voleurs opèrent facilement. C'est Monsieur Rowe qui nous écrit, bien sûr, de quelque part à Lomé. 90, 86, 35, 35. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Pas mal.
Votre nom c'est
Bobo depuis Nyekonakwe.
Bobo depuis Nyekonakwe, allez-y.
Je voudrais poser une question à nos autorités.
Pardon? Pardon. Vous voulez poser. Oui, Bobo. Allô?
Oui.
Vous voulez poser la question à qui?
À les plateaux, mais.
Pardon?
Les plateaux, vous qui sont là.
Oui, mais puisque vous avez parlé des autorités, je voudrais vous dire que les autorités ne sont pas sur ce plateau avec nous.
C'est la question que je voulais poser.
Oui, allez-y maintenant.
Là, ils ont libéré certaines personnes qui font les manifestations. Mais ils ont laissé certaines personnes. Moi, je demande ces gens du conseil, n'a qu'à libérer tout le monde. Parce qu'on sait ce qu'on on connaît, ce qu'on a dans le pays. Donc, il n'a qu'à laisser tout le monde. Ça sera mieux.
D'accord. Et ça, ce n'est pas une question, c'est plutôt une doléance que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, hein, Bobo, et merci à tous ceux qui nous ont appelés. Ça veut dire tout simplement que la pluralité, surtout des voix, la diversité des voix, ça fait justement une richesse à cette émission. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Mais étant donné que, à tout seigneur, tout honneur, nous allons donner la parole à Nathanaël Olympio, qui est notre invité du jour. Nathanaël, c'est vrai, si nous prenons la question de M. Abalo, puisque c'est le seul auditeur qui a posé de questions, lui demande si vous prenez au sérieux ces gens-là qui sont des initiateurs de ces manifestations.
Je pense que lorsqu'une jeunesse exprime sa détresse et son désarroi, il faut toujours la prendre au sérieux. Il faut toujours la prendre au sérieux. Et il ne faut pas s'attarder sur la manière dont cette détresse est exprimée. Voyez-vous? Et quand on est responsable, on a la charge de faire en sorte que les gens qu'on conduit soient satisfaits de la manière dont vous les conduisez. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et les Togolais, ils sont devenus exigeants. Ils veulent la fin de ce régime. Les Togolais demandent qu'on entre dans une transition pour refonder notre nation. et le régime ne l'entend pas de cette oreille et donc il exerce la répression. Nous sommes dans un cul-de-sac. On est arrivé à un endroit où il faut prendre une décision salvatrice pour le pays. Si le régime continue de s'enfermer dans sa tour d'ivoire et de ne voir que la solution répressive, mais la jeunesse va continuer également à donner de la voix. Et ça, ce n'est bénéfique pour personne, ni pour le pouvoir en place, ni pour les Togolais, ni pour le Togo. Et donc, moi j'estime que l'heure est venue pour que les voix de Amron soient entendues, les voix de la jeunesse togolaise soient entendues, et même les voix qui se lèvent du camp du pouvoir, que ces voix-là soient entendues. Si on continue à faire la sourde oreille, si on continue à donner aux Togolais la réponse qui est la suivante, taisez-vous, vous n'avez rien à dire, eh bien, un beau jour viendra, tout ça va partir en éclats, tout ça va exploser, parce qu'on ne peut pas étouffer éternellement une jeunesse qui ne demande que de s'exprimer, qui ne demande que la liberté, qui ne demande que du travail. Les Togolais meurent de faim, les Togolais sont étouffés, les Togolais sont privés de l'essentiel.
D'accord. Nathaniel Olympio, quelle est votre appréciation sur la sortie du procureur de la République?
Moi, j'ai envie de dire au procureur de la République que il nourrit encore un espoir qu'il ne pourra pas satisfaire. Il a ouvert une enquête, très bien, mais il y a nombreux de ses prédécesseurs qui ont ouvert des enquêtes sur des drames qui se sont passés dans ce pays, et les conclusions, parce que nous savons que ces conclusions-là existent, parce que les forces de sécurité et de défense font leur travail, ils mènent les enquêtes, mais le pouvoir politique met le coude sur ces dossiers. Et nous n'avons jamais les résultats rendus publics. Donc, le procureur de la République, je pense que lui-même, quand il ouvre une enquête, il faut qu'il prenne l'engagement devant les Togolais de publier les conclusions de son enquête. Il ne s'agit pas de chercher à calmer en faisant du dilatoire, mais il s'agit de préserver la vie des Togolais. Il y a quand même 7 personnes qui sont mortes, de nombreux blessés, et aujourd'hui le nombre de détenus politiques qui était déjà de plus de la centaine, ben, ça vient encore d'être augmenté. On ne peut pas continuer comme ça à emprisonner la jeunesse parce que la jeunesse demande d'être considérée.
Merci Nathaniel Olympio. Jacques, nous sommes à la fin de cette émission.
Oui, merci Pascal. Tout juste dire à nos compatriotes que le lait qui sort des mamelles de nos mamans est toujours très nutritif pour nous. Je compare le Togo à des mamelles. Et nous tous, nous connaissons un peu le bien fondé des mamelles de nos mamans. Les seins, c'est-à-dire de nos mamans. Nous tous avons tété ces seins. On sait le lait qui coule de ces seins-là, le bien fondé que ce lait-là donne aux enfants. Considérons le Togo comme ses mamelles, comme ses seins, et nous devons prendre soin de ses mamelles et de ses seins pour le bonheur de tout un chacun d'entre nous.
D'accord, merci beaucoup Jacques. Je pense que c'est profond ce que vous venez de dire. Didier?
Non, moi je crois que on ne peut pas régler des problèmes de façon conjoncturelle sans plutôt chercher à voir quelles sont les racines des problèmes. Je crois que il appartient aux autorités de ne pas minimiser ce qui se passe et de chercher à trouver des éléments et des approches de solutions. En 90, bon, pour ceux qui ont maîtrisé cette période, 90, on savait déjà que lorsqu'il n'y avait pas de voie en laquelle la jeunesse pouvait se reconnaître, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait rien. On a vu ce que la jeunesse togolaise avait fait à l'époque en 90 pour lancer le processus de démocratisation dans laquelle nous sommes. Et je crois que cette période est assez comparable à ce qui s'est passé en 90, et il va falloir justement qu'entre Togolais, on trouve les moyens d'écouter cette voix de jeunesse-là, de ne pas minimiser, parce que des fois, ça ne fait rien ou ce n'est rien là. C'est ce qui a tué le fils du féticheur.
D'accord. Mais toujours est-il que le fils du féticheur est toujours là. Oui, Dawson.
Oui, j'ai sincèrement apprécié la suggestion de M. Benoît qui appelle à des discussions
Mais j'ai trouvé que M. Abalo, qui dit qu'on ne blague pas avec la République, s'est trompé d'interlocuteur. Quand il demande à M. Nathaniel Olympio s'il est content de ce que ceux qui ne vivent pas au Togo ont fait. Si M. Abalo était dans la capitale et était sorti ces trois jours, il verrait que quand ils étaient à l'extérieur, l'effet que ça a produit sur la capitale, au moins, mérite que les autorités se penchent sur la question. Ce n'est pas au pauvre M. Nathaniel d'adresser cette question-là.
D'accord. Nathaniel Olympio, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de la fin.
Moi, je vais simplement dire à la jeunesse togolaise de ne pas se laisser impressionner par les armes, par le muscle et par la violence du régime. C'est le droit de la jeunesse togolaise d'exiger que l'avenir soit plus prometteur pour elle. Et donc, j'appelle la jeunesse togolaise à s'exprimer massivement, à dire ce qu'elle veut. Et moi, j'ai compris que cette jeunesse veut la fin de ce régime. Il faut continuer à le marteler. Si c'est le 16, si c'est le 17, la jeunesse togolaise doit s'exprimer. Et je recommande à cette jeunesse d'être déterminée et de se battre jusqu'à l'obtention de ce qu'ils attendent.
Merci beaucoup, Nathaniel Olympio, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le premier porte-parole du Front Touspa à ma constitution. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à Jacques Dzakouti d'être passé aussi dans cette émission. Analyse politique, journaliste, bien sûr. Didier Assogba, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal Togo Breaking News. Et Gosson Ketomanyan, merci d'être passé dans cette émission. Et merci de je suis très heureux quand même de retrouver encore toute l'équipe et merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakouta. Je suis Pascal Oussou, je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.